Transcontinent Queer. Enjeux et réalités queer d'un océan à l'autre.
Bien, bonjour tout le monde. Alors, vous l'entendez dans ma voix, je suis atteint d'une crise d'allergie depuis quelques jours qui fait que je suis congestionné. La neige a fondu très fort. Alors, ça me donne une voix très sexy, mais c'est pas agréable quand on travaille et qu'on tousse beaucoup. Donc, on va essayer de gérer ça. Alors, on commence notre émission aujourd'hui et balado par notre conversation nationale sur les actualités queer. Pourquoi? Parce que depuis le début de la saison, puis particulièrement depuis le début de 2024, on n'arrête pas de rapporter des incidents homophobes et transphobes ici et là. Et quand on assemble tout cela, ben ça fait peur. Puis ça, c'est pas mes mots, ce sont ceux d'enseignants et d'enseignantes d'élèves dans les écoles et d'élèves dans les écoles du Québec à la lumière de ce qui se passe. La montée de la haine envers nos communautés n'est pas un phénomène anecdotique, c'est un mouvement. CBC l'a nommé le mouvement anti-genre et anti-queer. Ce phénomène n'est pas unique au Québec et mes collègues de Transcontinent Queer le constatent d'un bout à l'autre du Canada. En fait, c'est un phénomène mondial, mais on va s'en tenir à notre pays pour le moment. On reçoit donc Dan Robichaud, animateur de radio et artiste et activiste queer et VIH à Clare, en Nouvelle-Écosse. Salut! Salut Dan!
Bonjour!
Bonjour! Il y a Arnaud Baudry qui est avec nous aussi, directeur général de Franco Queer à Toronto, en Ontario. Allô Arnaud! Et
bonjour,
et on reçoit Roseva Falk-Jenkins, qui est la coordonnatrice de programmation du comité franco-queer de l'Ouest. Elle est à Edmonton, en Alberta. Salut!
Bonjour!
Alors, ouais, c'est pas un sujet facile aujourd'hui. Commençons par la question la plus compliquée que je peux vous poser. Comment s'exprime cette haine anti-queer et anti-genre? Commençons dans les écoles dans votre coin de pays. Puis je pense que je vais lancer la question à la première personne qui a allumé son micro. Allez-y! Ça va. Je crois que je nomme quelqu'un. Hein? Ben, on va y voir avec toi, Roseva. Ah, Arnaud, vas-y.
Bon, moi, j'allais donner l'exemple d'histoires de jeunes trans qui nous ont été racontées, qui nous ont été rapportées par les jeunes elles-mêmes et eux-mêmes, d'expériences autant dans leur milieu scolaire qu'avec leurs parents. En fait, pour certaines personnes, le milieu scolaire, ça peut représenter un espace où elles se sentent plus en sécurité. Quand à la maison, les parents ne sont pas ouverts à la question, ils ne reçoivent pas de soutien de leurs parents. L'école peut représenter un espace plus sécuritaire, mais il y a aussi beaucoup d'enjeux dans les écoles. Et on nous a rapporté, ben, il y a plusieurs jeunes, en fait, quand on a fait nos consultations, qui nous ont rapporté des histoires vraiment tristes. De la manière dont elles sont rejetées par leurs parents, qu'elles n'ont pas le soutien de leur école, pas le soutien du milieu. Et puis on l'a vu récemment aussi à travers toutes les manifestations dans les mois passés. Ça s'exprime en fait directement dans les écoles. C'est assez alarmant parce qu'on voit l'impact sur la santé mentale des jeunes, et on voit comment ça les met à risque.
Ouais. Ben moi, j'allais dire, au Québec, on a vu là, un événement où un drapeau de la fierté qui avait été mis pour la journée de lutte contre l'homophobie et la transphobie, arraché et piétiné. Est-ce qu'on voit des choses comme ça, Roseva, dans ton coin?
Spécifiquement que les journées ne sont pas célébrées dans les écoles, est-ce que c'est
ouais.
Ça la question?
Ben, moi, je te pose la question parce que nous, on a vu, il y a eu des événements où des jeunes ont pris le drapeau de la fierté, le drapeau queer, et l'ont arraché dans l'école parce que on voulait souligner la journée de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Ils l'ont carrément piétiné comme si c'était un vulgaire torchon. C'est un des événements là, qui a été relaté dans les médias québécois. Je sais pas comment ça se passe chez vous, ça.
Oui, c'est dur de savoir spécifiquement ce qui se passe dans les écoles puisque c'est quelque chose de très, très spécifique. Qu'est-ce que moi, je dirais, c'est plutôt au niveau, tu sais, parce que comme organisme, on travaille avec les différents conseils scolaires pour faire des ateliers dans les écoles. Et C'était moins dans mon temps, mais avant mon temps, les personnes qui travaillaient avant moi, on dit, tu sais, je pense qu'est-ce qui était concernant, c'est quand on contactait les écoles pour dire on peut faire un atelier gratuit dans votre école sur les sujets de LGBTQIA+, puis des conseils scolaires qui disaient, ah, c'est pas quelque chose qu'on a dans notre coin, c'est pas quelque chose qui est important, c'est pas quelque chose qui est, que on n'a pas des élèves comme ça dans nos écoles. Alors ça, je pense, c'est très, très clair comme message que c'est le fait que ces conseils scolaires pensent qu'il n'y a pas des jeunes dans leurs écoles, c'est le résultat que les jeunes ne sont pas assez en sécurité pour partager leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, parce que clairement, tu sais, on sait que c'est quelque chose qui est dans une population de plus que 100, c'est quelque chose qu'on verrait, mais si on dit, ah, oh, c'est pas quelque chose qu'on a dans notre coin, ça veut dire que ce n'est pas une place sécuritaire pour ces jeunes, puis que l'école ne leur écoute pas, par exemple.
Ouais, c'est assez étonnant parce que dans une population, si on reprend les chiffres de Kinsey qui sont peut-être remis en question, mais disons qu'on est autour de 5 %, là, peut-être pas 10, comme il le disait, ben, tu sais, quand il y a quelques millions de personnes, ça commence à faire plusieurs personnes queer dans le coin, là. Dan, ça a l'air de quoi chez toi?
Alors, moi, je suis à peu près la pire personne pour parler d'experts, de qu'est-ce qui se passe dans les écoles. J'ai la chance de vivre dans une communauté, parmi les communautés acadiennes qui est peut-être les plus tolérantes. Ça fait que je sais que dans ma communauté, il y a des jeunes scolaires trans, gays, lesbiennes, et on n'en fait pas de. Il n'y a pas de manifestation, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'intimidation ou de haine ou d'enjeu dans le milieu scolaire pour ces personnes-là, mais ça fait rarement la une. J'ai même la difficulté à trouver un exemple cité.
Ah oui. Mais est-ce que ça s'exprime autrement? Parce que, comme je dis, nous, on en a vu dans les écoles, et puis au point où il y a des enseignants là, qui ont sonné l'alarme, ou qui ont dit, oui, qui ont sonné l'alarme, on peut dire ça. Est-ce qu'on voit d'autres exemples qui font que ça rend la vie un peu plus difficile pour les jeunes personnes? Puis je pense toujours aux personnes qui sont peut-être les plus affectées, c'est les jeunes qui sont trans ou non-binaires. Est-ce qu'on voit de la haine? Ben, tiens, je vois que tu as encore le doigt sur le micro, vas-y, Dan.
Je voulais vraiment juste préciser que juste parce qu'il n'y a point, peut-être un exemple qui est facile à retrouver, tu viens de mentionner, il y avait eu des drapeaux de la fierté qui ont été enlevés de milieu scolaire et il y a une de ces exemples-là, effectivement, ça arrive en Nouvelle-Écosse, à Halifax, à la capitale, mais je pense qu'on a la chance d'être un petit peu plus tolérant, surtout dans les communautés rurales.
Ouais. C'est étonnant parce qu'habituellement on pense que c'est dans les villes que c'est plus tolérant. Arnaud, qu'est-ce que t'en dis, toi?
Il y a un autre exemple qui me vient en tête, c'est que on avait participé à un comité diversité et inclusion qui était organisé par un conseil scolaire. Et en fait, il y a un groupe de parents qui s'est organisé pour venir participer, qui s'est invité en fait à cette réunion du comité, durant laquelle était présenté un projet de trousse d'appui aux jeunes de SLGBTQIA+. Et en fait, les parents ont pris la parole d'une manière très virulente, c'était vraiment très insultant. Et en fait, ils ont pris l'espace pour empêcher la discussion et pour venir déverser leur haine contre les personnes de SLGBTQIA+, alors que vraiment l'objet de la rencontre, c'était de trouver des moyens de les appuyer. Et quand on voit que c'est un groupe de parents, c'était comme près de 70 parents qui se sont organisés, c'est vraiment un groupe organisé, c'est pas des personnes ici et là, c'est vraiment un mouvement qui s'organise. Et ouais, ça fait peur pour les jeunes, surtout venant des parents. Moi, j'ai vraiment du mal à comprendre comment, dans l'optique des parents, les parents et personnes tutrices ne prennent pas en compte ou ne considèrent pas comment soutenir les jeunes. Mais c'est vraiment une version, c'est une approche autoritaire de la manière dont ils perçoivent et dans la manière dont ils veulent imposer une certaine identité sur leurs jeunes.
À quoi on peut attribuer, selon vous tous, cette montée de haine? Parce que ce sont des événements quand même qu'on voyait pas jusqu'à tout récemment. Je vais te lancer la balle, Roséva.
Oui, c'est intéressant comme tu dis, tu sais, qu'on n'en parle pas ou que c'est pas quelque chose qu'on voyait avant. Puis je me demande, c'est-tu quelque chose qui existait avant, mais c'est juste simplement qu'on n'en parlait pas. Tu
Ah,
sais,
peut-être.
moi, par exemple, quand j'étais jeune puis j'allais à l'école, c'était très normalisé d'utiliser le mot gay comme une insulte. Et c'était très, très, tu sais, l'homophobie, c'était comme l'air qu'on respirait. Tu sais, moi, j'ai 32 ans maintenant, alors juste pour donner, pour les personnes qui écoutent, c'est 10 ans, hey, tu viens ou tu es jeune, ben, c'est un petit peu dans le milieu, disons. Anyway, alors, je pense que c'est quelque chose que, tu sais, avant, on n'en parlait pas parce que c'était vraiment normal. Et ce qu'on, la société en général, c'était une société homophobe, donc on ne voyait pas ceci comme étant quelque chose de différent. Mais je pense que plus la société a changé, on voit maintenant cette homophobie comme quelque chose qui est différent au lieu de quelque chose, tu sais, qui fait partie de la vie normale. Donc, je pense que c'est peut-être qu'il y avait des parents qui étaient toujours homophobes, mais qu'eux qui n'ont jamais changé pendant que le restant du monde a changé et maintenant qu'ils réalisent que, OK, ben là, il faut s'organiser, il faut faire, tu sais, quand ils voient la progression de la société, les réactions de ceux qui sont contre, ça vient de plus en plus en ampleur. Alors,
C'est peut-être un retour du balancier, peut-être. Si on a vraiment, on a beaucoup évolué, puis là maintenant, il y a comme ces gens qui veulent faire reculer le balancier, peut-être. Ouais.
C'est mon idée.
Ouais, non, ça a de l'allure. Arnaud, qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce qu'on voit vraiment une recrudescence ou c'est simplement parce qu'on en parle plus qu'avant?
Moi, j'étais récemment à la conférence de Fierté Canada Pride et en fait, la question a été soulevée et puis quelqu'un qui a répondu en disant, bon, on parle de montée, mais en fait, ce n'est pas une montée, ça a toujours été là, il y a toujours eu de l'homophobie, de la transphobie. C'est juste que, ou c'est juste, disons que ça s'exprime d'une manière différente. Peut-être qu'il y a des mouvements qui sont un peu plus organisés que dans le passé, mais en tout cas, je pense que c'est juste de dire que c'est pas une montée, ça a toujours été là. Et peut-être la société a progressé un peu d'un point de vue de l'acceptation des personnes homosexuelles. Pas tant, je pense, du point de vue de l'acceptation des personnes transgenres. Des personnes non binaires, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et puis tous ces mouvements qui s'organisent, je pense, s'appuient sur des stéréotypes et des croyances qui sont vraiment infondées. Donc je pense que ça, il y a encore beaucoup à faire, beaucoup de travail de sensibilisation à faire.
Je vais t'envoyer la balle, Dan, puis surtout que tu es une personne qui fait quand même beaucoup les médias. Est-ce que, s'il n'y a pas une montée, ça a toujours été là, mais est-ce qu'il n'y a pas, à un moment donné, quelque chose qui exacerbe ces mouvements ou ces expressions de violence? Est-ce qu'on peut pointer du doigt les politiciens? Est-ce qu'on peut pointer du doigt aussi les médias?
Numéro un, les outils ont changé. Oui, on avait fait du progrès, même à travers les périodes de gouvernement conservateur au Canada, mais en même temps qu'on faisait des progrès, les outils de communication et de médias sociaux évoluaient, rendaient plus facile pour s'organiser d'un bord ou de l'autre de l'argument. Puis je pense que si c'est plus vulgarisé aujourd'hui qu'avant, c'est numéro un parce que les outils ont aussi évolué. Et je pense qu'il faut être aveugle pour ne pas blâmer l'hystérie qui se passe aux États-Unis. Je pense, je me sentais coupable si je ne le mentionnais pas. Je pense que on voit perdre des progrès au Canada à cause des fanatiques aux États-Unis.
Ouais, le fameux mouvement MAGA et tout ça qui nous font très peur. Comment nous, comme communauté, qu'est-ce qu'on devrait faire ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on devrait faire pour, ben, faut protéger ses droits, ses acquis qui sont quand même toujours fragiles hein, si on ne fait pas attention. Je ne sais pas à qui je lancerai la balle, peut-être Arnaud? Ou Roséva ouvert la balle. Oui, vas-y Roséva.
Ben justement, j'allais citer Arnaud qui parle de la sensibilisation, par exemple. C'est vraiment, tu sais, ce qu'on fait dans notre organisation. Puis on trouve que, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui peut-être qui ne comprennent pas, mais qui veulent comprendre plus. Alors, en donnant la chance à poser des questions, je pense qu'il y a beaucoup de personnes que peut-être c'est quelque chose qu'elles se sentent un petit peu. Et ils ne savent pas où poser des questions, où aller pour retrouver cette information. Et T'sais, je pense toujours à une conversation que j'ai eue avec des aînés, des grands-parents, que leur jeune fille faisait une transition. Et t'sais, il y avait la femme qui était très quelque chose qui a dit, t'sais, c'est nouveau pour moi, mais je veux tout le temps comprendre. C'est tout le temps t'sais, ma petite fille, je veux tout le temps lui faire pour son sa fête un beau gâteau comme qu'elle aime. C'est tout le temps mon enfant que je vais aimer. Mais le grand-père, je pense qu'il avait un petit peu plus de la misère, mais en parlant, ayant une conversation juste pour qu'ils comprennent plus, c'est vraiment venu à t'sais, qu'ils comprennent c'était quoi. Alors, je pense que il y a beaucoup d'ignorance des personnes, tu sais, qu'on ne peut pas convaincre, mais il y a beaucoup de personnes peut-être qui sont dans le milieu, qui ne savent pas et que en comprendre plus, en prendre ce temps pour expliquer, tu sais, quand c'est quelque chose qui arrive dans sa famille, c'est quelque chose, ça nous donne, tu sais, une motivation pour comprendre plus et comprendre que c'est pas juste un groupe, tu sais, des fois on voit dans les médias comme si c'était un groupe, tu sais,
À part avec des droits spéciaux.
exactement, mais de
Ouais.
comprendre que c'est des gens autour de nous. Et c'est pour ça que quand on fait la sensibilisation, on a des personnes qui donnent le témoignage personnel, c'était quoi pour eux, pour humaniser et montrer que c'est des personnes comme moi puis toi, comme tout le monde autour de vous, que c'est pas des personnes dans un petit coin qu'on rencontre pas, mais des vraies personnes qui ont des vues, des vies comme tout le monde d'autre.
Je vais me permettre aussi d'ajouter à ce que tu dis. Il faut comprendre que les personnes qui s'opposent aux droits des personnes queer, des personnes trans ou des personnes non binaires, ce sont une minorité. Cette minorité-là fait du vacarme, c'est ça le problème, et souvent elle devient violente. Je ne sais pas. Arnaud, parle-nous un peu de comment ça se passe chez toi. Qu'est-ce que vous faites pour contrer quand même ce mouvement, même s'il est minoritaire, il est violent. C'est ça qui est le problème, là.
Du côté de Franco Queer, on intervient dans les écoles, donc on fait de la sensibilisation auprès du personnel, auprès des jeunes. C'est assez compliqué. Je pense que ça dépend aussi des arguments qui nous sont présentés. Il y a des approches spécifiques à prendre en fonction des arguments qui sont présentés, comme par exemple les personnes qui mettent en avant le soi-disant droit des parents sur leurs enfants. Bon, en fait, il faut bien comprendre que ce qui prime, c'est le droit des enfants. Il n'y a pas de droit des parents sur les enfants. Les enfants ne sont pas une propriété des parents, mais il y a bien un droit des enfants qui doit être appliqué pour faire respecter l'individualité et la personne chez les jeunes. Je vais en profiter aussi pour mentionner, en fait, lundi prochain, le 25 mars, on va donner une formation en ligne qui va venir un peu conclure tout le projet de recherche qu'on a fait les 12 mois passés, là. On a fait un certain nombre de consultations communautaires, des consultations aussi dans les milieux organisationnels pour développer des outils et des contenus de formation pour sensibiliser les organisations à mieux servir la communauté de SLGBTQIA+. Alors ça fait partie aussi des choses à faire, essayer de monter des outils qui accompagnent à la réflexion et à la mise en œuvre de pratiques plus inclusives.
Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Transcontinent Queer. Enjeux et réalités queer d'un océan à l'autre.
On est de retour donc avec nos collaborateurs, collaboratrices de Boileau du Canada, Dan Robichaud qui nous joint donc à Clare en Nouvelle-Écosse, Arnaud Baudry qui nous joint donc à Toronto et Roseva Falk-Jenkins qui est à Edmonton. Je vais vous ramener sur un sujet dont on a parlé au Québec mais qui a des répercussions. Il y a 2 semaines, ICI Télé de Radio-Canada a diffusé un reportage d'enquête intitulé Transexpress. Puis là, écoutez, j'ai travaillé à Radio-Canada, je comprends très bien la démarche qui visait à mettre en garde contre des professionnels de la santé qui coupent parfois les coins ronds, puis c'était très bien démontré. Mais disons que le reportage a pris un autre virage par la suite. C'était un petit peu malaisant quand j'ai vu ça. Votre réaction, parce que je vous ai demandé tout le monde de le regarder, je pense que je peux envoyer la balle à Roseva. Réaction quand tu as regardé ce reportage?
Oui, c'était vraiment, j'étais vraiment surprise. Tu sais, Radio-Canada, d'habitude, comme tu as mentionné, c'est excellent leur reportage. Et ça, je trouvais ça intéressant comment qui avait des, tu sais, on parlait des histoires des jeunes qui ont, on parlait beaucoup de la détransition. Puis c'est quelque chose que, il faut dire, c'est un très, très no petit nombre de personnes qui vont faire une détransition. C'est une conversation importante à avoir, puisque les personnes, tu sais, qui font une détransition, c'est-à-dire quelqu'un qui ont fait une transition, peut-être médicale, et après ça, qui ont décidé de ne, de, enlever les effets de la transition ou de faire une détransition. C'est quelque chose que c'est important de parler dans la communauté trans pour que les personnes se sentent aussi acceptées. Par contre, quand on parle plus de la détransition que la transition, ça donne t'sais, ça fait un effet très négatif que les personnes pensent que, ah, oh, ben, les personnes qui sont trans, c'est quelque chose, t'sais, c'est juste un choix, qui vont après faire un autre choix après. Et ça représente vraiment pas, les statistiques qu'on connaît sur la transition. T'sais, les personnes d'habitude qui font une transition, c'est à peu près 1% qui le regrettent. Mais on fait comme si ces chiffres étaient beaucoup plus grands en parlant beaucoup de jeunes qui ont fait une détransition et qu'on montrait aussi que, t'sais, on montrait comme si c'était trop facile, que les jeunes pouvaient avoir accès à les chirurgies médicales. Et c'était vraiment quelque chose que, t'sais, dans mon expérience de tout ce que je sais, sur, tu sais, je suis pas une experte, mais je connais sur beaucoup de personnes qui ont fait une transition et ça représentait vraiment pas ce que je connais.
Ouais. En fait, comme je disais tout à l'heure, c'est que ce reportage a mis de l'avant le fait que c'est très difficile hein, pour une jeune personne trans ou une personne qui est en dysphorie de genre, on va commencer parce que c'est souvent ça, d'avoir une consultation dans le secteur public avec un médecin, avec un spécialiste. Alors, souvent, ils font appel au privé, payent un montant d'argent, et c'est pas toujours une personne, puis on l'a très bien vu dans le reportage, qui sait de quoi elle parle, parce qu'on peut être médecin, mais ça veut dire qu'on connaît tout dans la vie. Et moi, ça, j'ai embarqué là-dedans, mais j'avoue que par la suite, j'étais un petit peu mal à l'aise parce qu'on avait l'impression que c'était presque la majorité des jeunes qui voulaient détransitionner. Alors, je sais pas, Arnaud, comment t'as réagi quand t'as vu le reportage, quand tu l'as visionné?
Ben moi, je m'attendais à avoir un reportage sur les personnes trans et la transition. En fait, j'ai vu un reportage sur des personnes qui ont détransitionné et qui étaient déçues ou qui ne se sont pas retrouvées dans leur expérience de transition. Et je suis d'accord avec Rodeva, c'est un sujet important, il faut en parler. Ces personnes ont eu cette expérience et c'est malheureux et il faut trouver la meilleure manière de pouvoir les soutenir dans leur expérience. Mais si on prétend faire un reportage sur l'expérience de transition et sur la transidentité, ben moi j'ai trouvé que c'était raté en fait. Je comprends aussi de mettre en garde et en fait c'est un peu ça aussi que je trouve maladroit ou inquiétant carrément dans ce type de reportage, c'est que ça présente la question sous une forme d'urgence. Donc, ça contribue à faire monter la tension, en fait. Et alors qu'il n'y a pas de question d'urgence. Je pense que c'est clair que quand on écoute, comme le dit Roséva, quand on écoute les expériences des personnes trans, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Peut-être, oui, il y a des cliniques qui vont en profiter, qui vont faire de la marchandisation de l'expérience de transition, qui vont faire des prescriptions d'hormones à la va-vite. Mais ça, c'est pas l'expérience régulière. Il faut faire attention de ne pas tout mélanger.
Dan.
Moi, je suis d'accord avec les autres commentaires aussi. Je trouve que focuser sur la détransformation, ça avait un goût quasiment de chemin vers la thérapie de conversion. Ça me rappelle beaucoup de Radio-Canada en Acadie, qui avait fait un faux pas avec le dead name de Zénia il y a quelques années. Je même pas si tu t'en souviens, Denis Martel, de
Oui, je
ça,
me
mais
souviens de ça, oui.
ça me donnait le même goût, là, que peut-être que au niveau du journalisme, on aurait pu reviser comment c'était présenté.
Je vais donner la chance à quelqu'un de conclure. Est-ce que ce genre de reportage-là, et puis j'ai ajouté, on n'a pas eu le temps de le dire, mais il y avait des personnes qui étaient citées, qui étaient des experts, supposément, des questions trans, mais qui sont des experts qui ont été discrédités là, par leur ordre professionnel. Mais on n'a pas le temps d'aller là. Je vais juste peut-être terminer. Je voulais vous donner la parole à la première personne qui y va. Est-ce que ce genre de reportage-là, c'est quelle sorte d'effet que ça peut avoir sur des jeunes personnes en dysphorie de genre? Alors, je vais envoyer ça à Arnaud parce que je sais que t'es bon pour nous conclure ces trucs-là, toi.
Ben, l'effet, je pense que c'est pas un effet positif. En gros, le message, c'est de dire que attention, si vous vous embarquez dans cette aventure, vous allez le regretter. Donc, c'est tout plein de signaux pour dire ne vous embarquez pas dans une transition. Alors que vraiment, ce qui contribuerait à soutenir les jeunes, ça serait d'avoir des messages positifs, de renforcement, d'appui. On voit que l'accès à des soins d'affirmation de genre contribue à la bonne santé mentale des jeunes et à leur bien-être. Et aussi, un déterminant important, c'est l'appui des parents. Et je pense que dans ce qu'on a vu dans ce reportage, c'est pas vraiment aligné avec ces bonnes pratiques.
Mais on va arrêter là-dessus. Merci Arnaud Baudry, directeur général de FrancoQueer. Merci à Roséva Fork-Jenkins, qui est coordonnatrice de la programmation au comité FrancoQueer de l'Ouest. Et merci à Dan Robichaud, animateur, activiste, artiste en Nouvelle-Écosse. Merci à vous tous.